Il est essentiel que vous puissiez repérer un certain nombre de signes, vous, famille, proches, aimants, les personnes dont on va parler, qui portent cette maladie. Quels sont les signes, justement, docteur de la Doucette, qui permettraient de savoir qu'on bascule vers quelque chose qui est de la maladie d'Alzheimer ?
Tout à l'heure, j'avais la casquette de président de la Fondation. Là, je vais vous parler plutôt en tant que psychiatre qui consulte, qui suit des patients atteints de maladie d'Alzheimer depuis 35 ans. Donc, j'aime me définir comme un psychiatre gérontophile. Et si je veux m'adapter à la Réunion, je dirais que je suis un psychiatre gramonophile, n'est-ce pas ? C'est ça qu'il faudrait que je dise. Effectivement. Alors, je remercie le docteur Jean-Marc Echène, d'abord pour les jolies photos de la Réunion qu'il nous a proposées, ce joli voyage, mais aussi donc de nous avoir expliqué l'importance du diagnostic. Peut-être que d'autres confrères vont nous expliquer un petit peu la démarche, les examens qu'il faut faire, etc., pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Mais le diagnostic est un moment absolument essentiel dans la prise en charge d'un malade d'Alzheimer. Et pourtant, vous voyez, en métropole, et ici probablement, on me dit même que c'est encore plus long ici, le délai entre le moment où apparaissent réellement des troubles de la mémoire inquiétants et le moment où le diagnostic est posé est de 2 ans pour les formes âgées, 5 ans pour les formes jeunes. Et pourquoi 2 ans ? Parce qu'il faut 1 an pour que les familles comprennent qu'il y a un problème. Ça a été évoqué par l'un d'entre vous. On a pris un peu notre temps parce qu'on pensait que c'était le vieillissement normal. Il oublie des choses, mais finalement, c'est de son âge. Et ensuite, 1 an pour que le généraliste se mobilise. Ça a été dit également. Les généralistes ont du mal à bouger pour un certain nombre de raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. Pour les formes jeunes, c'est encore plus long parce que les malades jeunes sont très souvent confondus avec des problèmes psychiatriques dans un premier temps, d'autant plus que les symptômes sont souvent connotés de troubles psychiatriques. L'entrée dans les malades, dans des formes jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 65 ans, se fait souvent par des états dépressifs, anxieux, des troubles addictifs, une agitation, et puis les troubles cognitifs vont venir par la suite. Donc ce sont des patients qui seront en errance, d'autant plus qu'à 55 ans, vous travaillez, vous avez des enfants qui ont 10 ans, on ne peut pas imaginer que vous êtes en train de démarrer une maladie d'Alzheimer. Donc, ça prend du temps. Mais l'un dans l'autre, on est en droit de se demander, mais pourquoi ça prend autant de temps ? Que se passe-t-il exactement ? Eh bien, il se passe la chose suivante. Il y a des raisons à ça. Et les raisons, elles sont multiples. Elles concernent d'abord la maladie. Alors c'est assez paradoxal parce que la maladie d'Alzheimer est devenue un terme finalement qui est entré dans le langage de tous les jours. Et quand on a plus de 50 ans et qu'on oublie où on a mis ses clés, on dit en blaguant « j'ai l'Alzheimer ». Mais au fond, c'est une forme conjuratoire pour repousser quelque chose qui fait extrêmement peur. Alzheimer est une pathologie qui fait très peur, on l'a vu tout à l'heure. Deuxième maladie qui fait le plus peur aux Français, à juste titre. Tout à l'heure, nous étions en train d'évoquer justement cette comparaison entre le cancer et l'Alzheimer. Et on se disait, il y a une trentaine d'années, le mot cancer n'était pas prononcé. Souvenez-vous, on disait, il est mort d'une longue maladie. Et certains d'entre vous ont connu des hôpitaux où il n'y avait pas de service de cancérologie. On parlait d'oncologie, quand on avait des services peut-être de pneumo, il y avait des coins où on ne disait pas trop, mais c'était là qu'étaient les cancéreux, etc. La maladie n'était pas dite, mais pour quelle raison ? Mais parce qu'elle n'était pas curable et qu'elle faisait extrêmement peur. Mais aujourd'hui, avec Alzheimer, on est un peu dans la même situation. Poser le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est rien sauf simple. On n'assomme pas un malade qui vient vous voir après quelques examens. « Monsieur, vous avez la maladie d'Alzheimer, on prend son temps. » On s'informe auprès de la famille pour savoir s'il est en droit et capable d'entendre. J'ai moi des patients qui viennent me voir en me disant « Bon docteur, alors on a fait le bilan, alors je vous préviens, si j'ai la maladie d'Alzheimer, je me suicide. » Que répondez-vous ensuite à ce patient qui, effectivement, a une maladie neurodégénérative débutante? Comment fait-on? C'est compliqué. Docteur, j'espère que je n'ai pas la même pathologie que ma mère parce que je l'ai suivie pendant 15 ans et que ça a été très compliqué. Que dire à cette personne? Donc ce sont des diagnostics difficiles à poser. Ce sont des diagnostics d'autant plus difficiles à poser que nous n'avons pas de traitement curatif. Le jour où nous aurons des traitements curatifs, eh bien, je pense que l'image de la maladie va changer et je pense que les démarches diagnostiques seront beaucoup plus simples. En attendant, ça reste une maladie qui fait peur, qui fait honte et que l'on cache. Parce que, n'oubliez pas, pendant très longtemps, démence sénile était le terme qu'on employait pour aujourd'hui la maladie d'Alzheimer dès lors que vous aviez des troubles cognitifs graves au-delà de 65 ans. Et c'est depuis une trentaine d'années qu'on a considéré que finalement, que vous ayez 48 ans, 72 ou 98, eh bien, si vous avez un tableau démentiel, c'est une maladie d'Alzheimer, avec les mêmes lésions dans le cerveau. C'est pour ça qu'on parle de maladie d'Alzheimer aujourd'hui, et plus démence sénile. C'est un terme qui est banni du vocabulaire des spécialistes. On ne doit plus employer ce terme. On peut parler de maladie démentielle, mais pas de démence sénile. Mais il n'en demeure pas moins que ça fait peur. Et le mot démence est quand même dans l'esprit de tous. Et qui dit démence, c'est une des particularités de la langue française, c'est que le mot démence a plusieurs significations, comme vous le savez. Et pas des significations finalement très encourageantes qui rassurent, bien entendu. Donc, maladie qui a une image dans l'opinion publique peu favorable à sa médicalisation. Deuxième problème pour ce retard diagnostique, c'est que les médecins sont effectivement en difficulté pour poser le diagnostic. Ça a été dit par le docteur Echen. Effectivement, nos médecins, alors un peu moins les jeunes, mais ceux qui ont, on va dire, plus de 50 ans, sont encore, peut-être pour certains, dans la logique de considérer que finalement, bon, il a 80 ans, il a déjà pas mal vécu, il a des problèmes cardiaques, il a peut-être un début de cancer de la prostate. Alors, si en plus il a Alzheimer, c'est secondaire. On va s'intéresser à ce qui est le plus important, c'est-à-dire les problèmes organiques. Et voilà, c'est de son âge, donc on ne va pas s'y attarder trop, sauf si vraiment ça pose trop de problèmes. Et puis en plus, c'est très chronophage de poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, parce qu'il faut s'asseoir, appeler l'entourage, poser les questions, depuis combien de temps, quel type de trouble, quelles sont les conséquences, quelles sont les comorbidités, etc. etc. Et en plus, on a fait tout ça pour proposer quoi aux patients? Pas grand-chose. Parce que nous avons un problème qui s'est surajouté à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous proposons à nos malades atteints de maladie d'Alzheimer des traitements. Si on ne les guérit pas, on les soigne. Et on peut les soigner très correctement, avec des prises en charge médicamenteuses et non médicamenteuses. Seulement, le problème, c'est que les prises en charge médicamenteuses sont assurées par une classe thérapeutique qu'on appelle les inhibiteurs, l'acétylcholinestérase. Bon, un terme un petit peu compliqué pour désigner des molécules qui vont faire remonter dans notre cerveau un neurotransmetteur qui baisse, qui est très impliqué dans la mémoire. Ces traitements sont faiblement actifs et entraînent quelques effets secondaires fâcheux, ce qui fait qu'il est difficile de les associer dès lors que la personne a des comorbidités multiples et notamment des problèmes cardiovasculaires. Donc on ne peut pas le donner à tout le monde. Étant donné que le bénéfice n'était pas considérable et qu'il y a eu, on va dire, en haut lieu, quelques agitations dans les ministères et un peu de lobbying, un peu stupide à mon avis et très dommageable, et c'est l'avis de tous les prescripteurs de ces médicaments, c'est-à-dire les gens vraiment au contact des malades, les neurologues, beaucoup de gériatres, les quelques psychiatres qui s'y intéressent, toutes les sociétés savantes, y compris les associations de malades comme France Alzheimer, ils ont tous regretté qu'à un moment donné, eh bien, le ministère de la Santé décide, compte tenu au fond du faible intérêt de ce produit, on va le dérembourser. Alors, un produit déremboursé, ben, c'est un produit qui n'est pas efficace. Donc, comme il n'est pas efficace, on ne le prescrit plus. Et donc, beaucoup de médecins généralistes ne prescrivent pas ces médicaments. Alors, à quoi bon poser un diagnostic pour vous proposer un médicament qui n'est plus prescrit et auquel je ne crois que très peu, vous diront les généralistes. Donc, c'est tout ça le problème de la maladie d'Alzheimer qui se pose aux médecins. Ils sont souvent peu formés, peu d'intérêt, une maladie très chronophage et des médicaments controversés. Ça, c'est les médecins. Et puis, ça a été dit également, le problème, c'est que au début, cette pathologie peut être confondue avec le vieillissement normal. Car notre cerveau est certainement l'organe le plus chronorésistant du corps humain. C'est l'organe qui tient le plus le coup. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais si je vous propose d'écrire une jolie lettre, vous allez le faire, j'imagine, très bien, et vous le ferez aussi bien qu'il y a 30 ans. Mais en revanche, si je demande de courir comme il y a 30 ans, ça va être un peu difficile. C'est là où vous réalisez que votre cerveau résiste plutôt bien au temps. Notre cerveau est un organe particulièrement chronorésistant. Il a juste un défaut, c'est qu'il n'existe qu'en un seul exemplaire et que quand il tombe en panne, on ne sait pas le réparer. Mais il vieillit, comme le reste du corps, avec un certain nombre de petits symptômes parfaitement surmontables. Mais au début, effectivement, il peut y avoir des chevauchements entre un vieillissement cérébral un peu accentué et un début de maladie d'Alzheimer. Alors, on va s'attarder là-dessus, parce que je pense que ça peut vous intéresser, vous personnellement, et peut-être pour votre entourage. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une confusion ? Il peut y avoir une confusion parce qu'on a un certain nombre, déjà, de phénomènes très spécifiques à cette maladie, qui fait que, eh bien, le diagnostic n'est pas facile à poser. D'abord, la maladie d'Alzheimer, hélas, ne permet pas d'être diagnostiquée par des tests dits pathognomoniques. Qu'est-ce que c'est un test pathognomonique ? C'est un test qui vous permet de dire sans aucun doute, vous avez telle maladie. Vous êtes un peu fatigué, vous êtes jaune comme un coin, vous allez faire un petit prélèvement sanguin et on va vous dire, vous avez une hépatite virale. C'est très simple, on a vérifié que dans votre sang, vous aviez les anticorps pour l'hépatite A, B ou C. Vous êtes en train d'éternuer, un peu la gorge qui gratouille, vous allez faire un petit test dans le nez et on va vous dire, vous avez effectivement Covid. Voilà, ça, ce sont des tests qui permettent de dire avec certitude que vous avez une maladie. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, vous allez voir qu'il y a des tests qui permettent de poser le diagnostic quasiment avec certitude, mais c'est une batterie de tests qui, mis bout à bout, permettent d'obtenir le résultat. Ils sont tous nécessaires, mais aucun n'est suffisant. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un IRM un peu pathologique qu'on va dire que vous avez Alzheimer. Ce n'est pas parce que vous avez des tests qui ne sont pas très bons qu'on va dire que vous avez nécessairement Alzheimer. Il faudra ajouter un certain nombre d'éléments pour arriver au diagnostic. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a un doute et qu'il faut faire appel à des professionnels. Ensuite, il y a un autre problème qui est compliqué et qui fait que c'est difficile de poser un diagnostic, c'est que nos patients et aussi les familles sont souvent dans le déni des troubles. Et ils ont un autre phénomène, qui est un terme un petit peu technique, mais que vous allez facilement comprendre, qui est l'anosognosie. Vous décomposez, c'est A, c'est or, noso, c'est maladie, gnosis, c'est connaissance. C'est les gens qui n'ont pas la connaissance de leur maladie. Et ça, c'est une spécificité de la maladie d'Alzheimer, des maladies neurodégénératives de ce type, c'est que le patient le patient ne sait pas qu'il est malade. Il s'en rend un petit peu compte, parfois il rend compte que ça ne va pas très bien, mais il n'a pas la notion de l'ampleur de son déficit. Il ne sait pas à quel point il oublie. C'est un phénomène neurologique. Associé à ce phénomène neurologique, où le patient, quelque part, oublie qu'il oublie, vous avez des phénomènes psychologiques, le déni, qu'un phénomène que nous utilisons tous. Tout au long de notre vie, nous sommes parfois dans le déni. Quand il y a quelque chose qui nous casse beaucoup les pieds, on est dans le déni. On ne veut pas le voir, on ne veut pas l'entendre. A fortiori, quand ça fait très, très peur, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas l'imaginer. Donc nos patients Alzheimer, ils ont non seulement l'anosognosie, mais ils sont souvent un peu dans le déni. Parce qu'ils savent qu'effectivement, s'ils ont un début d'Alzheimer, ils pourraient ressembler éventuellement à leur mère, à leur père ou aux voisins, et ça, ils n'en veulent absolument pas. Ça fait très très peur. Tout le monde connaît Alzheimer, tout le monde sait comment ça va finir. Donc, on est avec des gens qui sont dans une méconnaissance plus ou moins complète de leurs difficultés. Donc, aller les conduire chez un toubib, c'est loin d'être simple. Et puis, prendre le temps, justement, chez le toubib, de leur expliquer pourquoi on fait les tests, etc., c'est pas facile non plus. Ça retarde, justement, eh bien, cette démarche. Et le déni, il peut aussi être auprès des familles. Et ça, on le voit très souvent. Nous, les professionnels, on voit ça. Des familles qui arrivent en consultation avec des patients à des stades très avancés de la maladie. Et on se dit comment ils ont attendu aussi longtemps. Parce qu'ils étaient dans le déni. Ils ne voulaient surtout pas imaginer le pire. Donc, ils se disaient, oh, ben, il a oublié parce qu'il est un peu fatigué, il n'a pas bien dormi, il sort du Covid, il a mal digéré, ou il est un peu vieillissant en ce moment, etc. Et puis, on ne veut surtout pas voir qu'en réalité, c'est une pathologie qui est en train d'évoluer. Donc, on a ces problèmes qui viennent se surajouter et qui complexifient la démarche diagnostique. Et puis, enfin, on a souvent un manque d'informations sur le malade et la maladie qui suscite le plus souvent beaucoup d'inquiétudes. Alors, toutes ces raisons font que, eh bien, la démarche est difficile. Et la démarche est difficile pour essayer d'apprécier justement ces premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors, vous allez voir, les intervenants qui vont parler après moi vont vous expliquer un petit peu comment, au fond, cette maladie d'Alzheimer s'inscrit dans le temps. Il y a une période où vous avez des lésions dans le cerveau, mais vous n'avez pas de signes cliniques. Ensuite, vous avez une période avec des signes cliniques à minima, hein, des signaux faibles, on va dire, de maladie d'Alzheimer. Et ensuite, vous avez une période où vraiment, là, les signaux sont tout à fait clairs. Moi, je vais vous parler de la période des signaux faibles, faibles à moyennement faibles. C'est-à-dire tout à fait le début, où on peut éventuellement confondre avec le vieillissement cérébral. Eh bien, les principaux signes observés à ce moment-là sont les troubles amnésiques, on y viendra tout à l'heure, et les changements d'humeur et de comportement. Je vais commencer par les changements d'humeur et de comportement. On va dire qu'environ 20% des maladies d'Alzheimer commencent comme ça. Le malade a quelques défauts avec sa mémoire, mais en réalité, il commence par des troubles de l'humeur qui sont parfois très accentués. Quelqu'un sans antécédents de dépression, qui a une vie plutôt équilibrée, qui est entouré, il n'y a aucun problème majeur dans sa vie, et il se déprime. On ne sait pas pourquoi, il devient un peu triste, un peu chagrin, il se replie sur lui, il se désintéresse des choses, il peut même pleurer, avoir une vraie souffrance psychologique, vraiment avoir un cafard noir, être très malheureux, et on ne comprend pas ce qui se passe. Alors ces gens-là, il faut les soigner. Le problème, c'est que, je ne sais pas ce qu'il en est à La Réunion, mais en France, vieillir est une maladie pour beaucoup, c'est considéré comme quelque chose de presque un peu pathologique, et donc on pense que quand on est vieux, on est forcément triste. Donc un vieux triste, c'est un vieux. Et que, voilà, Bah oui, on est un peu déçu pour lui. Alors quand on est jeune, et on se dit, bah oui, c'est normal qu'il soit triste, il est vieux. C'est tellement triste d'être vieux. Mais non, la tristesse n'est pas légitime quand on est vieux. Vous avez des vieux gais et vous avez des vieux tristes. Et vous avez des vieux qui deviennent tristes. Et ça se soigne maintenant très bien. On donne des antidépresseurs qui marchent très bien. Et il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. Et cette personne un peu tristounette, un peu repliée sur elle, eh bien, va retrouver un peu de gaieté, va s'animer, va retrouver l'élan vital qui lui manquait. Donc, cette tristesse, il faut la soigner. Hélas, quand elle est le prélude d'une maladie d'Alzheimer, elle s'accompagne souvent d'une inertie psychomotrice. Il y a cette difficulté à prendre les choses en main. Il y a un désinvestissement progressif des choses et surtout des choses qui ont un retentissement intellectuel, des loisirs intellectuels. Il joue au bridge, il dit « Oh, pff, allez, j'en ai marre de jouer au bridge, ça me fatigue, ils sont toujours mauvais joueurs, ils s'engueulent, j'ai plus envie de jouer. » Ce sont des prétextes. Il était président de l'association des joueurs de pétanque et il dit « Oh ben non, ça me fatigue, maintenant j'ai plus envie d'aller jouer à la pétanque. » Il aimait bien lire, il lit plus des romans, il lit plus que des journaux plus faciles, etc. etc. Et on se rend compte que cette perte d'envie qui s'installe progressivement, qu'on peut dans un premier temps mettre sur le compte de la dépression, en réalité, est probablement les signes avant-coureurs d'une maladie d'Alzheimer débutante. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Vous connaissez cette jolie chanson de notre ami Johnny. Hein, donnez-moi l'envie d'avoir envie. Eh bien, nos malades d'Alzheimer, ils sont dans cette situation-là. Ils n'ont plus envie d'avoir envie. Ils se désinvestissent. Alors, le traitement fera qu'ils seront un peu plus gais, mais néanmoins, on va voir que cette inertie va persister et va s'accroître. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle ces changements comportementaux. Associés à ces changements comportementaux, il y a les changements d'humeur, j'en ai parlé, mais il peut y avoir aussi des changements de personnalité. La personne peut devenir un peu irritable parce qu'elle est triste. Quand on est cafardeux, on est irritable, ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi. Hein, on est un peu énervé quand on est triste, on a une mauvaise nouvelle, donc les gens nous ennuient pour ne pas dire autre chose, donc on devient un peu irritable. Ben, ce patient peut devenir un petit peu irritable, et puis moins enjoué, peut-être même présenter ce que nous appelons dans notre jargon une anesthésie affective, un peu désintéressé par ses proches. On s'étonne, il y a une naissance, un mariage, on lui dit « est-ce que tu viens ?»« Oh ben non, non, je suis fatigué. » On est un peu surpris parce qu'on se dit « c'est pas lui, il n'était pas comme ça avant. » Donc on voit ces changements dans la personnalité, dans le comportement qui peuvent apparaître à un moment donné et qui sont nouveaux, inauguraux dans la vie de ce patient. Associé à ces troubles, il y a les fameux troubles de la mémoire. Alors là, j'aimerais rentrer un peu plus dans les détails parce que qui, ici dans cette assemblée, ne s'est jamais plaint de sa mémoire ? Levez la main. Personne, évidemment. Hein ? Tout le monde se plaint de sa mémoire. C'est normal de se plaindre de sa mémoire après 55 ans. Ne pas se plaindre de sa mémoire est un peu inquiétant, presque. Hein ? C'est ou vous êtes dans le déni, ou vous êtes, et vous allez voir, peut-être anosognosique. Je vous rappelle, j'aime bien cette petite phrase, qui n'est pas de moi, mais de La Rochefoucauld, le moraliste du XVIIe, qui disait « Tout le monde se plaint de sa mémoire, mais personne de son jugement. » Bon. Mais là, on parle de la mémoire, on ne parle pas du jugement, je vous rassure, ni du mien, je n'en parlerai pas. Alors, ce qui est important, c'est de voir que ces troubles de la mémoire, quand ils sont chez les gens dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire vous comme moi, sont très souvent décorrélés des performances. Plus vous vous plaignez de votre mémoire et que vous avez moins de 80 ans, plus finalement, moins vous avez de risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Quand moi, et bien je suis sûr que les spécialistes de la mémoire au premier rang, vous recevez, il y a à la télé Michel Simès qui fait une émission sur le mystère de la mémoire où le cerveau, c'est inconnu, et puis on vous parle d'Alzheimer, etc. Et puis la personne vient 15 jours après en me disant « Docteur, il faut me faire des tests tout de suite parce que j'ai perdu ma voiture sur le parking du Leclerc. Et puis ce matin, je ne savais plus très très bien où j'avais mis les clés dans ma maison. Je suis sûr que c'est un Alzheimer. Et puis ma belle-fille m'a répété en boucle « mais tu deviens gâteuse ». Alors là, c'est sûrement un Alzheimer. Vous pouvez être sûr que non, il n'y a pas de problème. A priori, elle est juste un peu stressée. Il faut la rassurer et tout ira bien. Mais quand une personne vient nous voir, accompagnée de son conjoint, et qu'on lui demande « Vous êtes là pourquoi ?» comme ça, incidemment, « Ah ben je sais pas, c'est ma femme qui a souhaité que je vienne », peut-être un petit peu inquiétant, et puis vous lui demandez « Alors, et la mémoire, comment ça va ?»« Ah ben moi, la mémoire, ça va très très bien », et vous voyez l'épouse qui lève les yeux au ciel, vous dites « Il y a un problème ». D'accord ? Donc c'est totalement décorrélé des performances. D'accord ? Ceux qui se plaignent le plus au test sont rarement ceux qui ont les moins bonnes performances. Et puis, c'est le plus souvent lié à des troubles attentionnels. Vos troubles mnésiques sont, dans 98% des cas, liés à des troubles attentionnels. La mémoire est un outil d'une performance incroyable, mais qui est fragile et qui dépend, eh bien, de beaucoup de phénomènes, qui peut être perturbé par énormément de phénomènes. Et regardez, les troubles attentionnels peuvent être liés à des troubles dépressifs, à des troubles anxieux, donc la dépression, quand on est déprimé, eh bien, on n'est pas concentré, on pense à autre chose, donc les gens vous parlent et vous êtes un peu absent, donc vous ne fixez pas les informations. Les troubles anxieux, quand vous êtes très stressé, parfois, eh bien, vous oubliez les choses, hein, qui n'a pas été dans la situation d'une personne qui doit prendre la parole en public, qui a oublié son papier et puis ne sait plus très bien quoi dire, on a le trac et on oublie, c'est très caractéristique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les circuits de la mémoire et les circuits de l'émotion dans notre cerveau profond sont côte à côte. Donc, quand il y a trop d'émotions, ça disjoncte un peu du côté de la mémoire et ça bloque et on n'y arrive pas. Stress professionnel, c'est la fatigue, hein, professionnelle. On en reçoit des gens qui viennent épuisés, ils disent « je ne peux plus rien mémoriser », mais c'est tout simplement la fatigue. Prise de médicaments, vous avez des médicaments qui interfèrent avec la mémoire. Ce dont on vous parle le plus souvent, ce sont évidemment les psychotropes et en particulier les tranquillisants, qu'il ne faut pas bannir mais qu'il faut utiliser avec modération. Troubles du sommeil, vous allez voir, on va vous le répéter, le sommeil est indispensable à la mémoire. C'est souvent pendant la nuit que on va retravailler les informations collectées dans la journée pour pouvoir eh bien, sélectionner les bonnes et éliminer les mauvaises. Et puis, les troubles thyroïdiens, et puis les syndromes d'apnée du sommeil, tout ça, ce sont des troubles du sommeil. Enfin, le vieillissement normal, qui lui aussi perturbe la mémoire, mais dans le vieillissement normal, la mémoire est perturbée de deux manières. Un, vous avez du mal à retenir les informations parce que vous n'êtes pas attentif. On a des petits troubles attentionnels quand on vieillit, on est un peu moins, on entend moins bien, on voit moins bien, on est un peu plus perturbé, on a plus de mal à se concentrer sur les choses. Mais surtout, ce qui est très caractéristique du vieillissement, c'est qu'on a des troubles de la récupération de l'information. Je suis sûr que vous êtes ici, comme moi, de temps en temps, confronté à ce problème. Alors, hier, j'étais au cinéma avec tel acteur, bon sang, comment il s'appelle cet acteur, rappelle-moi le nom de cet acteur. Et l'autre ne s'en souvient pas non plus. Et puis, 5 minutes plus tard, ben oui, évidemment, c'était Brad Pitt. Bon, OK. Donc ça, on a ça tout le temps, mais ce n'est pas grave. En réalité, l'information, elle est dans le cerveau, mais on a du mal à la récupérer, comme si la bibliothèque était un peu encombrée et il faut aller chercher, on ne sait plus très bien où elle est, où est l'ouvrage, mais on finit par le trouver en passant en revue et on finit par trouver l'ouvrage et là, Brad Pitt. C'est ce qui nous arrive en vieillissant. Donc, ces troubles-là sont très fréquents et on est rarement devant une affection neurodégénérative. Les troubles de la mémoire, quand on est face à une maladie d'Alzheimer, ce sont des trous. C'est-à-dire que c'est béant. Et que quand je vous demande si je commence une maladie d'Alzheimer et qu'on me dit « Alors hier, tu étais au cinéma et comment s'appelait l'acteur ?» Eh bien, on a beau me donner plein d'indices, il est américain, il est très beau, il plaît aux femmes, etc., Non. Et puis c'était un film d'aventure, tu te souviens, ça parlait de ceci, cela. Non. Je n'ai pas retenu le nom. Le nom n'a pas été fixé. Car, on vous le dira tout à l'heure, vous verrez, le problème de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'en fait, l'information n'est pas fixée dans le cerveau. Elle flotte et elle est éliminée. Ou elle n'est même pas retenue. D'accord ? Donc, elle n'est pas là. Tandis que quand on est vieux, ou qu'on a un vieillissement cérébral, tout simplement, qui avance, ce qui est normal, l'information, elle est là, mais il faut aller la récupérer, ou on n'était pas concentré, donc on ne l'a pas fixée comme il fallait. Alors, pour finir, j'aimerais vous proposer un petit tableau comparatif, où vous allez voir justement la différence, bon, tout ça est très schématique, mais ça résume un peu ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, entre, dans ces phases dites prodromales, où on est tout à fait au début de la maladie, ce qui différencie quelqu'un qui est en train d'évoluer vers une maladie neurodégénérative de type Alzheimer et quelqu'un qui est juste fatigué ou déprimé ou vieillissant. Vous voyez ? Donc, la personne normale qui consulte, elle consulte seule, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, alors qu'en général, quand il y a un Alzheimer, il consulte accompagné puisqu'il est anosognosique et qu'il est dans le déni. Ensuite, les difficultés intellectuelles, dans le cas de la personne normale, eh bien, c'est le passé récent et lointain. Hein, j'ai un peu oublié ce que j'ai fait il y a 3 mois ou il y a 1 an, mais oui, voilà, ça peut arriver. Perte du fil de la pensée, difficulté à se concentrer, on a un petit peu de mal. Voilà, on n'est pas très attentif parce qu'on est fatigué pour des raisons X ou Y. Alors que ce qui est très caractéristique des troubles de la mémoire du sujet atteint d'un Alzheimer, c'est que ce sont des oublis récents. Hein, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment des oublis, des événements qui se sont déroulés récemment. Alors, dans les formes très avancées, c'est la conversation que j'ai eue il y a 2 minutes. Dans les formes débutantes, c'est la conversation que j'ai eue hier avec ma fille, le film que j'ai vu il y a 3 jours et qui est complètement effacé. D'accord ? Et on peut, par contre, se souvenir parfaitement eh bien, d'un poème qu'on a appris au jardin d'enfants ou un peu plus tard. Après, on a aussi voilà, d'autres troubles cognitifs qui peuvent s'installer à bas bruit hein, et qui font que voilà, les choses deviennent un petit peu plus compliquées. L'autonomie, il n'y a pas de modification pour les personnes normales. En revanche, quand on est devant une maladie d'Alzheimer, on voit que cette personne, quand on regarde très finement, on se rend compte qu'elle commence à devenir un petit peu moins autonome, elle fait plus appel à son épouse, à ses proches, elle prend plus de notes. C'est plus compliqué, elle est plus floue. On le voit, nous, les professionnels, on se rend compte, quand on interroge les gens, on voit qu'ils sont moins clairs dans leur façon de parler d'eux-mêmes et de ce qu'ils font au quotidien. Et puis le comportement, ben, on a vu hein, clairement qu'il y avait des différences. Et enfin, la personnalité, il y a aussi un changement de caractère. Voilà. Donc, vous voyez, ces signes-là qui sont au fond des signaux faibles à modérer de la maladie d'Alzheimer, eh bien, il faut essayer d'être attentif à ces signes et ne pas craindre, dès lors qu'on a un doute, d'aller consulter. On ne vous reprochera jamais d'aller trop tôt chez un médecin. En revanche, on sera attristé que vous veniez très tardivement, quand la maladie est avancée, très installée, avec beaucoup de difficultés, aussi bien pour le patient que pour sa famille. Voilà, merci de votre attention.
Merci, docteur Olivier de la Doucette, pour cet exposé très précis, n'est-ce pas, des signes que peut-être déjà certains d'entre vous ont pu repérer, connaissent ou ont vécu. C'était vraiment intéressant de voir ce parallèle, finalement, hein, entre les deux possibilités.
On a parlé des médicaments qui étaient déremboursés. Hier, je discutais avec Jean-Pierre Cerveau qui disait que ces patients qui étaient sous ces traitements qui avaient été arrêtés avaient brutalement chuté. Est-ce qu'on peut avoir une information sur le coût du traitement pour pouvoir informer les familles et qui prennent en charge ces traitements quoi, hein. Le coût est important.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est tout à fait ce que nous observons. Alors, je ne dirais pas dans la totalité des cas, mais dans un nombre important de cas, lorsque, pour une raison X ou Y, on arrête le traitement chez ces patients, dans les mois qui suivent, ils dévissent. Donc, Le problème de ces médicaments, c'est qu'ils n'améliorent pas les performances, ils freinent un déclin. Donc il est sûr que c'est très compliqué de mesurer un déclin freiné, vous concevez. Mais effectivement, c'est dommage de supprimer une chance à nos patients de décliner plus lentement. Alors, le coût, dès lors que c'est dérégulé, dès lors que le médicament n'est plus remboursé, le coût varie beaucoup d'une pharmacie à l'autre. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Donc, je ne sais pas ce que ça coûte à La Réunion, mais je sais qu'en métropole, ça va de 20 euros, 25 euros par mois, à 60.
Effectivement, c'est une terrible. Grosse fourchette, hein.
Alors, à vous de négocier avec votre pharmacie, je ne sais pas, mais voilà. Alors, vous voyez, pour des gens qui ont peu de revenus, 60 euros par mois, c'est-à-dire 720 euros par an, c'est beaucoup d'argent. C'est juste pas normal, c'est une double peine. C'est même une triple peine. Parce qu'on leur dit non seulement que leur traitement ne sert à rien, qu'ils ont une maladie incurable, et qu'en plus, il faut payer les médicaments. C'est un peu cher, quand même. C'est un peu cher.
Mais c'est vrai que le fait de le savoir, ça permet de pouvoir choisir en conscience, en tout cas, et de pouvoir peut-être même entamer une négociation, effectivement, avec les commerçants en pharmacie pour profiter, bénéficier de ces remèdes.